c'est Lorraine. Vous faites partie des fidèles de La Poudre. Vous venez tout juste de découvrir ce podcast. Dans les deux cas, j'ai un message important pour vous. À partir du 20 octobre prochain, La Poudre s'écoutera en exclusivité sur Spotify. Oui, oui, vous avez bien entendu. Bientôt, La Poudre, ça sera sur Spotify et pas ailleurs. Donc, si vous ne voulez pas louper la saison 6, je vous recommande très fort de vous abonner au flux de La Poudre sur l'application Spotify dans la rubrique Podcast. Ça reste gratuit, évidemment, il suffit de se créer un compte. Je compte sur vous pour me suivre chez Spotify, votre soutien est très important. Allez, on se retrouve le 20 octobre, je vous réserve des épisodes plus explosifs que jamais. Allez, en place, c'est La Poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Des femmes artistes, activistes, inspirantes, politiques, des femmes puissantes.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps,
n'a pas d'époque. Elle marque son époque.
Dans la
boum
poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Rachel Keke.
Ce n'est pas un travail facile, c'est un travail qui abîme le corps des femmes. Pourquoi je dis les femmes? Parce que la majorité de ce travail, c'est les femmes qui le font.
Intersectionnalité, est-ce que vous comprenez bien ce mot? Est-ce que vous le pensez excessif, galvaudé, dangereux? Insuffisant. Il est pour moi la clé de tous les mouvements sociaux actuels. Il est la grille de lecture essentielle afin de relier les luttes féministes, antiracistes et décoloniales. Et comme je ne suis pas la personne la plus légitime pour vous l'expliquer, j'ai eu envie de vous relire le passage du texte de la juriste et chercheuse africaine-américaine Kimberley Williams Crenshaw, tel qu'il est apparu pour la première fois sous sa plume en 1994. Ne jamais oublier que ce mot a été pensé au départ pour traduire le réel des femmes noires victimes de violences. La traduction en français que je vais vous lire est issue des cahiers du genre et a été publiée en 2005. L'emploi de l'expression « femme de couleur », traduction littérale de « women of color » en anglais, n'est pas forcément la plus heureuse. On lui préférerait sûrement aujourd'hui « femme racisée ». Bon allez, je me lance. Je voudrais ici me risquer à aller plus avant sur la question en explorant les dimensions raciales et genrées de la violence contre les femmes de couleur. Les discours féministes et antiracistes contemporains n'ont pas su repérer les points d'intersection du racisme et du patriarcat. En m'attachant à deux manifestations de la violence masculine contre les femmes, les coups et le viol, je montre que les expériences des femmes de couleur sont souvent le produit des croisements du racisme et du sexisme. Et qu'en règle générale, elles ne sont pas plus prises en compte par les discours féministes que par le discours antiraciste. Du fait de leur identité intersectionnelle en tant que femmes et personnes de couleur, ces dernières ne peuvent généralement que constater la marginalisation de leurs intérêts et de leurs expériences dans les discours forgés pour répondre à l'une ou l'autre de ces dimensions, celle du genre et celle de la race. Je dois tout de suite préciser que mon but n'est pas de proposer avec l'intersectionnalité une nouvelle théorie globalisante de l'identité, ni d'avancer que seuls les cadres spécifiques de la race et du genre envisagés ici permettraient d'expliquer la violence contre les femmes de couleur. Des facteurs que je n'aborde qu'en partie ou pas du tout, tels que la classe ou la sexualité, contribuent souvent de manière tout aussi décisive à structurer leurs expériences. Cette focalisation sur les intersections de la race et du genre vise uniquement à mettre en lumière la nécessité de prendre en compte les multiples sources de l'identité lorsqu'on réfléchit à la construction de la sphère sociale. Kimberley Williams Crenshaw, Cartographie des marges, 1994. Avec Rachel Keke, on a parlé de femmes, de race et de classe.
Rachel Keke, vous êtes femme de chambre depuis 16 ans dans le deuxième plus grand hôtel Ibis de France, l'Ibis Batignolles à Paris. Vous êtes aussi syndicaliste CGT-HPE et l'une des porte-paroles du mouvement de grève lancé en juillet dernier par 20 personnes chargées du nettoyage des chambres de cet hôtel. Ce mouvement, qui compte 19 femmes, réclame des conditions de travail décentes et surtout l'internalisation du travail de nettoyage des chambres par la chaîne d'hôtel, car votre employeur, c'est la société CTN qui sous-traite pour le géant de l'hôtellerie Accor. J'avais très envie de m'entretenir avec vous, Rachel, parce que vous êtes l'une des voix des personnes les plus invisibilisées de la société. C'est presque un miracle que votre voix ait réussi à porter jusqu'aux médias. Ça s'explique peut-être par le fait que la grève que vous menez s'inscrit dans une longue série de grèves similaires l'ayant précédée. Votre combat est un combat de travailleuses précaires, mais aussi un combat féministe, un combat antiraciste. Vous symbolisez la convergence des luttes qu'on aimerait voir émerger aujourd'hui après la crise sanitaire et politique qu'on vient de traverser. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de me parler, Rachel. Est-ce que le confinement vous a obligé à mettre en pause votre combat ?
Le confinement nous a obligés à nous mettre, à arrêter un peu le combat, puisque c'est le gouvernement qui avait interdit le rassemblement par rapport à coronavirus. Donc, au départ, on voulait continuer et les syndicats nous ont dit, comme c'est l'État qui demande, c'est le confinement, il faut rester à la maison. Donc, c'est comme ça, nous sommes à la maison, on a un peu arrêté le combat.
Alors, pendant le confinement, on a beaucoup parlé des premiers de corvée, toutes ces personnes qui soient aides-soignantes ou qui travaillent en supermarché, qui ont dû continuer à travailler en première ligne. Je crois d'ailleurs que votre mari en fait partie. Est-ce que vous vous êtes sentie en solidarité avec ces personnes ?
Normalement, vu qu'on disait que le Covid-19 était dangereux, fallait pas sortir, et puis en plus laisser ces personnes aller travailler, je pensais que c'est de prendre quand même un gros risque pour leur vie. Donc normalement le gouvernement devait mettre en place, même commander les nourritures sur internet, livrées à la population à domicile pour qu'ils puissent vivre, mais laisser d'autres aller travailler, je pense que c'est mettre un peu leur vie en danger.
Et vous, comment s'est passé votre confinement à vous ? Vous avez 5 enfants, je crois. Ça n'a pas été trop galère de gérer l'école, etc.
Mais moi, les enfants aussi, ils ont été confinés aussi parce que l'école était fermée aussi. Donc, Dieu merci, je n'ai pas d'enfants en bas âge. Ma dernière, elle a 12 ans. Donc, ça s'est bien passé. Ils étaient dans les chambres et puis, souvent, on jouait au Monopoly. Et voilà, on sortait pas, on faisait des jeux entre nous. Et franchement, personne n'a rien eu et ça s'est bien passé.
Ouais. Bon, tant mieux. Dans La Poudre, on essaye de refaire un peu les parcours. Donc, j'aimerais qu'on revienne au tout début de votre parcours à vous. Vous avez grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était comment de grandir à Abidjan?
Mais c'est mes origines, c'est là-bas que je suis née. Je suis né à Abidjan dans un quartier qu'on appelle Abobo. J'ai été élevé par mon père et ma mère. Et à l'âge de 12 ans, ma mère est décédée. Et c'est comme ça que j'ai arrêté l'école. J'ai vécu avec mon père et mes frères. Donc après, quand j'ai eu 16 ans, je me suis lancé dans la coiffure. J'avais pas de salon de coiffure, mais je coiffais pratiquement à la maison. Et les gens venaient me donner un peu de sous. Donc voilà, c'est comme ça. Après, je suis venu ici en France. Mon oncle étant ici, qui avait sa femme, qui avait un salon de coiffure, et vu que je coiffais bien, et m'a fait venir ici pour continuer le métier.
Vous avez appris la coiffure toute seule ? Vous êtes autodidacte ?
Oui, je l'ai appris tout seul parce que c'est quelque chose qui est dans notre famille. Et nous, dans notre famille, il y a les hommes qui coiffent. Et il y a les femmes aussi qui coiffent. C'est quelque chose que c'est un don pour nous. Donc, ça vient tout seul. Voilà.
Rachel, est-ce que vous êtes née femme ou est-ce que vous êtes devenue femme?
Je suis née femme. Je suis née femme. Mais moi, je ne suis pas garçon manqué. De toutes les façons, vous savez, en Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, en Côte d'Ivoire, nous, on a 60 ethnies. Donc, moi, ma mère, elle était bété. Donc, du côté bété, c'est des gens qui ont du caractère comme les hommes. Voilà, c'est des gens qui ne se laissent pas marcher dessus. C'est des gens qui disent ce qu'ils pensent. C'est des gens qui n'ont pas peur de dire les choses. Donc, je ne suis pas garçon manqué, mais j'ai un caractère d'homme. Voilà, en fait.
D'accord. Et votre maman, elle avait le même caractère, alors?
Oui, elle avait le même caractère.
Vous espériez, en venant en France, donc c'était en 2000, hein, c'est ça? Vous aviez 25, 26 ans quand vous êtes arrivée en France. Vous espériez pouvoir continuer à exercer votre métier de coiffeuse en France, à Paris?
Oui, en fait, je venais pour coiffer. Et puis, vu que je ne pouvais pas coiffer dans un salon parce que quand même, il y avait le contrôle. C'est quand je viens que j'apprends qu'il faut avoir les papiers. Donc, les clients venaient à la maison, chez mon oncle qui est décédé, donc, et que je coiffais à la maison, les clientes à la maison. Voilà.
Mais comme vous étiez sans papier, il y avait quelque chose qui mettait un peu votre famille en danger, le fait de faire ça, c'est ça?
Non, mais parce que, bon, un peu en danger, oui, parce que jamais si, par exemple, je partais dans son salon, qu'il y avait le contrôle de police.
Voilà.
Ouais. Et c'était déjà interdit, tu ne pouvais pas travailler sans avoir tes papiers. Donc, voilà, donc pour quand même un peu survivre, je faisais ça à domicile. Et puis, bon, voilà.
Est-ce que, je me posais la question, parce que c'est aussi une époque où vous avez eu plusieurs de vos enfants. Je crois que vous êtes arrivée en France, vous étiez enceinte, vous avez connu certaines difficultés.
Oui, mais quand je suis arrivée en France, je suis arrivée enceinte. Et parce que mon oncle, il ne savait pas que déjà j'étais enceinte, parce que je ne lui avais pas dit. Et quand j'ai fait le demande de visa, je suis arrivée, il m'a dit que j'étais enceinte. Après quelques mois, il n'a pas pu supporter parce que déjà héberger deux personnes, il n'avait pas de place. Et c'est comme ça que j'ai été chez une amie. Et mon amie qui m'a amené voit une assistante sociale dans le 18e. Et les assistantes sociales m'ont beaucoup aidée. Ils m'ont beaucoup aidée, mais étant chez une amie. Donc, il me donnait des papiers que je partais au Resto du Cœur. Je prenais des choses à manger. J'avais des tickets aussi. Donc, là, j'ai accouché à la rue Boisière. Et après, j'ai une amie qui est à Vernon, et derrière Mantes-la-Jolie, qui m'a dit de venir avec l'enfant. Je suis partie. Je suis restée à Vernon avec l'enfant. Et après encore, il y a une amie qui me disait, Patricia, que je salue au passage, qui m'a beaucoup aidée, qui me disait, Rachel, tu peux venir chez moi à Villeneuve-la-Garenne. Donc, je suis allée à Villeneuve-la-Garenne avec l'enfant. Donc, c'est de là que j'ai connu le père de mes trois autres enfants.
Donc, vous avez retrouvé l'amour près de Paris, alors.
Voilà, c'est ça. Et après, comme lui, il saoulait une chambre chez sa sœur. Et c'est comme ça que j'ai quitté chez mon ami, je suis allée avec lui et c'est comme ça que j'ai eu ma deuxième fille, Marie-Christine. Donc après encore, la sœur aussi nous a mis dehors. Après, on a été squatter une maison à Vitry-sur-Seine. Et quand on a squatté la maison à Vitry-sur-Seine, après on allait saouler une chambre encore chez un ami. Et là, lui et moi, ça n'allait plus. C'était la bagarre totale. Et après, je suis allée voir une assistante sociale qui m'a mise au foyer avec les deux enfants. Donc, j'étais au foyer à Vitry-sur-Seine. Et c'est de là qu'en 2001, les assistantes sociales m'ont dit avoir mes papiers. Donc, de là, maintenant, j'ai tout fait pour avoir un boulot. Parce qu'on me demandait, il faut que je travaille pour avoir une fiche de paye et tout par rapport au logement. Donc, une amie m'a parlé de l'hôtellerie. Au départ, quand j'ai eu les papiers, j'avais commencé à faire garde d'enfants. Mais vu les heures, tu commences à 8h30, tu finis à 18h30. Donc, ça ne m'arrangeait pas par rapport à la garde des enfants.
Bien sûr.
Donc, voilà.
Dans l'hôtellerie, vous avez trouvé plus de souplesse au niveau des horaires? Vous aviez plus de temps pour vos enfants, c'est ça?
Au départ, quand j'ai commencé en 2003, je ne faisais pas trop de chambres. Donc, j'avais vraiment le temps pour les enfants.
Ouais, ils étaient encore petits à l'époque.
Voilà, ils étaient encore petits. Donc, j'avais vraiment, vraiment le temps. J'avais le temps de les déposer et après, j'avais le temps d'aller les récupérer, les suivre, les faire les devoirs avec eux, parler un peu de ce qu'ils ont fait un peu à l'école, rigoler et puis bon, voilà.
Ouais, être maman, quoi.
C'est ça.
Parce qu'au départ, en fait, vous faisiez un mi-temps, vous cumuliez moins d'horaires que vous le faites aujourd'hui.
Non, là, aujourd'hui, je suis plus femme de chambre. Ça fait un an et demi, je suis gouvernante.
Ah, pardon, je me suis trompée en vous présentant. Je suis désolée.
Oui, oui, c'est pas grave. Gouvernante, j'allais rectifier. Gouvernante, c'est quand la femme fait la femme de chambre, fait la chambre. Donc, la gouvernante, elle passe derrière pour vérifier le travail de la femme de chambre, si c'est bien fait, s'il n'y a pas de produits d'accueil qui manquent, si les serviettes ne sont pas tachées, s'il n'y a pas de poils sur les draps. Et quand la chambre est nickel, elle trouve que la chambre est nickel. En ce moment, elle appelle la réception pour dire à la réception que la réception peut louer la chambre au client. Donc ça, c'est le rôle de la gouvernante.
D'accord. Alors, parmi les revendications des grévistes, des femmes de chambre grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles, il y a ce chiffre qui revient beaucoup, c'est que vous devez, enfin, en tout cas les femmes de chambre doivent nettoyer 3,5 chambres à l'heure. Et je voulais savoir si vous pouviez nous décrire en fait qu'est-ce que ça implique, quels gestes on doit accomplir quand on doit faire 3,5 chambres à l'heure. Ça veut dire quoi ?
3,5 chambres à l'heure, c'est-à-dire dans une chambre, tu dois faire quand même 17 minutes. Mais moi, j'ai dit aux gens, ce n'est pas 17 minutes, souvent c'est plus de 17 minutes. Parce que quand tu arrives le matin dans la chambre, tu mets ta tenue, tu montes au cinquième, tu prends ton rapport, tu vas ranger ton chariot, tu mets tout ce qui est serviette, drap dans le chariot, tu prends les produits d'accueil, tu prends les produits pour nettoyer. Après, tu vas prendre le chariot sale. Quand tu frappe à la porte pour voir si le client n'est pas dans la chambre. Tu ouvres les fenêtres, tu débarrasses tout ce qui est sale, tu fais sortir tout ce qui est sale et après, tu prends les produits, tu mets partout dans la salle de bain pour laisser agir. Et après, quand tu finis, tu enlèves les gants, tu te laves les mains, tu refais le lit, tu refais la poussière, tu refais tout ce qui est poussière et tout. Et quand tu finis tout ça, tu rentres dans la salle de bain, tu fais la salle de bain, tu fais les toilettes, tu fais le lavabo. Après, tu passes la serpillière, après, tu passes l'aspirateur. Donc, tout ça en 3,5 chambres par heure. Donc, c'est les mêmes gestes que tu fais. Donc, supposons, si on te donne 30 chambres, les 30 chambres, tu dois faire ce même geste-là jusqu'à la fin de ton
temps. Voilà. 30 fois.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et vous dites que ce travail induit des douleurs physiques très lourdes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, celles que vous vivez, vous ou vos collègues ?
Mais le travail, c'est vrai, comme je dis, le travail des femmes de chambre, c'est un travail très, très, très difficile. Ce n'est pas un travail facile. C'est un travail qui abîme le corps des femmes. Pourquoi je dis les femmes ? Parce que la majorité de ce travail, c'est les femmes qui le font. C'est pour ça qu'on dit femmes de chambre. Parce que partout, tu passes, tu attends femmes de chambre. Donc, la majorité, c'est nous, les femmes, qui faisons ce métier-là. Donc, c'est un boulot, à force de faire les gestes répétitifs, qui te donne des douleurs de dos, des genoux qui s'enflent, des pieds, tu n'arrives pas à marcher, des canards carpiens, des tendinites. Et moi-même, j'ai été trois fois même en accident de travail. J'avais eu le disque de mon dos qui était abîmé. J'ai fait 4 mois à la maison et j'ai repris le boulot. J'ai reçu encore un canard carpien du bras, une tendinite du bras droit. Et j'ai reçu encore une deuxième fois encore ce même accident sur le bras droit. Donc, c'est un travail vraiment très difficile pour nous.
Voilà. Ouais, très difficile, très physique avec la répétition de ces gestes qui fait penser aussi un peu au travail à la chaîne qu'on peut faire aux ouvriers dans les usines. Enfin, c'est le même genre de marquage dans le corps. J'ai lu des articles qui disaient que les femmes, et particulièrement les femmes immigrées aujourd'hui, c'était le nouveau prolétariat. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses ?
Oui, je suis d'accord avec, comme je disais, que parce que nous, quand même, nous venons à l'aventure et quand tu viens, quand même, il ne faut pas rester les bras croisés, il faut travailler parce que quand même, je veux dire, l'État ne va pas toute la vie vous aider puisque maintenant, l'État te donne les papiers, la préfecture te donne les papiers qui t'autorisent à travailler. Et nous, et le travail que nous pouvons faire, c'est ce métier-là. Parce que quand nous allons souvent postuler dans d'autres travaux, on nous dit qu'il n'y a pas de boulot. Mais ce métier-là, les Africains ont plus du travail dans ce métier. Je me dis, comme on est des gens racisés, c'est ce métier qui les mérite. Mais moi, je dis, ce boulot, c'est vrai que nous sommes des femmes racisées, on travaille, mais on travaille aussi pour la France. Parce que sans nous aussi, on fait beaucoup pour la France. Parce que sans nous, il n'y a pas de touristes. Quand les touristes, ils prennent les avions et qu'ils, dans des différents pays, ils viennent voir la Tour Eiffel, quand ils finissent de visiter, ils vont bien dormir dans un hôtel. Et ces hôtels, c'est les femmes racisées qui le font. Et nous le faisons avec fierté. Parce que quand même, c'est un travail qui nous aide à nourrir nos familles, qui nous aide à faire aussi beaucoup de choses, à payer nos loyers, à faire beaucoup de choses. Donc, il ne faudrait pas que les gens profitent. C'est des gens racisés qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et ils sont venus, sont obligés de faire n'importe quoi sur leur vie. Voilà. Donc, ça, franchement, ce n'est pas bien.
Il y a vraiment deux choses importantes que j'ai compris en lisant tous les récits de votre combat de grève et puis aussi les mots de Tsidiri Kandi de la CGT HPE qui est une des personnes qui vous a aidé à vous syndiquer, qui vous a aidé à monter la grève et qui a une analyse vraiment très juste des choses. En fait, elle a dit que d'une part, votre travail, il est complètement minimisé. C'est-à-dire qu'on considère que vous faites le ménage, alors qu'en réalité, entretenir la propreté d'un hôtel de 700 chambres, ça demande des compétences qui engagent votre responsabilité, qui sont très lourdes, qui ne sont pas une prestation bas de gamme du tout. Et par ailleurs, ce que j'ai réalisé, c'est qu'un hôtel, c'est le cœur de son métier, en fait, de maintenir les chambres propres. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un hôtel que de proposer à des clients d'avoir des chambres propres ? Et ce travail-là, qui devrait être le cœur du métier, il est externalisé. Et c'est quoi les conséquences pour vous, le fait que l'hôtel sous-traite ce travail-là à une autre entreprise, en l'occurrence STN, votre employeur ?
Mais nous, les conditions avec la sous-traitance, parce que quand même, STN n'est pas la première sous-traitance que nous avons connue au sein de cet hôtel-là.
Oui, il y en a eu plusieurs, hein, notamment Elan. Ouais.
Voilà, c'est quand même la quatrième sous-traitance qu'on a connue, mais c'est les mêmes rythmes de travail, c'est les mêmes fonctionnements. Avec la sous-traitance, on n'arrive pas à mieux travailler. On est assailé moralement. On n'a pas de pause. On ne peut pas déjeuner. On est submergé de travail. On a une impression pas possible. On ne souffre pas. Si ce n'est pas quand tu arrives chez toi ou bien quand tu dis « Ouf, j'ai fini, je sors de l'hôtel » et que tu souffres un tout petit peu. Donc, on sent tellement la pression, on sent aussi la maltraitance au sein de la sous-traitance. C'est-à-dire, tu arrives, on te donne 30 chambres, tu dis aujourd'hui, les chambres sont trop. Non, tu es obligé de faire, qui va le faire? Si tu ne le fais pas, tu sors. Donc, vous voyez tout ça. Ça, c'est la sous-traitance. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous, dans notre lutte aujourd'hui, on veut finir avec la sous-traitance et travailler directement, être internalisé directement. Le groupe Africa peut le faire parce que quand même l'hôtel Ibis Les Batignolles, c'est la deuxième quand même plus grand hôtel d'Ibis de France. Donc avec 706 chambres dans les chambres. Donc pourquoi c'est que le service de nettoyage et de ménage qui est sous-traité et les autres ne sont pas sous-traités? Donc, moi, je vois que là, il y a la discrimination. Donc, normalement, ils doivent internaliser tout le monde pour que tout le monde ait les mêmes conditions de travail.
Bien sûr, et il y a aussi des différences de traitement, par exemple, du type les salariés de l'hôtel, ceux qui travaillent à la réception ou à la restauration, par exemple, ils ont un 13e mois, ils ont des tickets restaurant.
Oui.
C'est vraiment une façon très concrètement de vous donner moins de droits que les salariés de l'hôtel, en réalité.
Oui, mais et puis retenez bien que même quand c'est pendant le canicule et qu'il fait tellement chaud, quand tu leur demandes une bouteille d'eau, ils ne te donnent même pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, voilà, ils ne te donnent pas. Et même quand tu viens ce matin, quand j'ai repris le travail, je devais prendre ibuprofène pour calmer mes douleurs. Et quand j'arrive, je me dis, ah bon, j'ai pas pris quand même un croissant. Il faut que je demande au moins un ou deux croissants pour prendre un peu, pour pouvoir prendre mes médicaments. Mais le jour que tu vas comme ça, il n'y a personne, et que tu cherches les gens pour prendre les croissants, mais ils te refusent, ils ne te donnent pas. Et ça, c'est la réalité. Ils ne te donnent pas. Ils te disent non, tu n'as pas le droit de prendre.
C'est délirant. J'ai lu que parmi les maigres avancées que vous aviez obtenues, on vous a octroyé un ticket restaurant de 3,40 euros, comme si c'était un grand geste. 2 euros. Comme si c'était un geste généreux de vous octroyer 2 euros pour manger dans une ville comme Paris où pour 2 euros, on peut acheter une baguette et demie, quoi. C'est complètement délirant, en fait, le mépris avec lequel on traite les personnes sous-traitées par l'hôtel. Alors, c'est vraiment intéressant, je l'ai compris aussi en me renseignant au sujet de votre mouvement. Donc, le syndicat CGT-HPE a déjà mené plusieurs grèves qui ont été couronnées de succès, qui ont permis l'internalisation du service de nettoyage, qui ont permis à d'autres femmes de chambre d'obtenir des droits importants. Je pense que c'est bien de rappeler les hôtels où ces mobilisations ont eu lieu et ont marché. Donc, il y a le Concorde Montparnasse, le Campanile Première Classe de Suresnes, le Parc Hayat Vendôme. Est-ce que, avant de rencontrer les syndicalistes de CGT-HPE, vous aviez conscience que vos conditions de travail étaient illégales?
Oui, je peux dire oui, parce qu'on était d'abord avec EFO. Avant de connaître la CGT-HPE, EFO, quand même, on est resté 15 ans avec EFO.
D'accord.
Et ils n'ont rien fait, voilà. Ils n'ont rien fait, on se plaignait. Bon, on ne savait pas quand même où aller. Et après, la CGT Propriété est venue reprendre, avec les élections, est venue reprendre le site. Donc, la CGT Propriété, on s'est réunis entre femmes. On a fait un courrier et moi, ils m'ont donné le courrier. Je suis allée donner ça au secrétaire général leurs bureaux sont basés à Guimauqué. Et je suis allée leur donner par rapport à nos conditions de travail. Il fallait qu'on nous baisse la cadence parce que les chambres sont trop, 40 chambres, 30 chambres, souvent 50 chambres. On n'en peut plus, nous sommes épuisés, les gens sont malades. Donc, ils ont dit oui, on va voir. Et bon, ils n'ont jamais rien fait. Donc, oui, nos conditions, on était vraiment concerné, mais on ne savait pas qui nous aidait. On ne savait pas si on dénonçait ça, qui allait nous écouter. Donc, c'est comme ça, mon collègue Traoré Aboubaka est venu un jour me dire, Rachel, est-ce que tu sais qu'on m'a présenté la CGT-HPE et ils sont prêts pour nous aider. Et moi, j'ai dit, mais on a connu quand même des syndicats. Franchement, la CGT-HPE, est-ce que tu es sûr? Parce que moi, j'ai plus confiance aux syndicats. Je pense que les syndicats, je pense qu'ils sont en complicité avec les patrons pour profiter de nous et pour nous amener même à la mort. Donc, est-ce que tu es sûr que la CGT-HPE peut nous faire, je ne sais pas, sortir de ce silence et puis changer nos conditions de travail? Et il a dit oui. Lui, il allait voir M. Lédy, Claude Lédy. Donc, il pense. Dans ce cas, on y va, nous sommes allés, on était 3 personnes et on est parti, qu'on est allé voir la CGT-HPE. Et après, Claude Lévy, on a essayé d'expliquer un peu notre problème et tout ensemble. Et il a dit, est-ce que vous savez que vous pouvez être payé par nombre d'heures? Parce que nous sommes payés par nombre de chambres. On n'est pas payé par nombre d'heures, nous sommes payés par nombre de chambres. Et moi, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on pourra être payé par nombre d'heures? Il dit, parce que pour mettre une pointeuse dans l'hôtel, voilà. Et moi, j'ai dit, une pointeuse, c'est-à-dire quand tu commences à 8h30 et que tu finis à 18h30, on te paye les heures. Et ils ont dit, oui, la pointeuse sert à ça.
Ben oui.
Voilà. Et là, ça m'a choqué parce que quand même, depuis 16 ans, j'ai jamais entendu ça.
Mais c'est important de resituer. Enfin, voilà, Claude Lévy et Tiziré Candy, c'est vraiment deux syndicalistes qui sont spécialisés dans les hôtels de luxe et dans les droits des femmes de chambre. Et c'est vrai que vous aviez face à vous des personnes tellement puissantes. Le groupe Accor, c'est aussi le plus gros groupe hôtelier de France. Donc, il faut vraiment des personnes qui sont expérimentées, qui savent comment s'opposer à un tel ennemi, en fait. Surtout que vous avez vraiment rencontré aussi pas mal de résistance. Moi, j'ai lu quelque part qu'on avait estimé que vos maris devaient vous dissuader de faire grève parce que vous vous exposiez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, en fait, le piquet de grève? Comment ça se passe une journée de grève pour vous depuis le mois de juillet?
Mais quand on a commencé le 17 juillet, les syndicats sont arrivés avec de la musique, les drapeaux, tout. Et comme on avait fait la réunion, on savait qu'il devait arriver le 17 juillet. Et on a laissé le travail et on est tous descendus. Donc, les femmes qui sont descendues, il y a la CGT Propriété qui est venue deux semaines après le début de la... Oui, après la grève, pour venir casser la grève. ils sont arrivés plus d'une vingtaine de personnes pour dire oui, on est tous de la CGT propriété, il n'y a pas de grève, on est tous pour pouvoir briser cette grève-là. Et là, on leur a dit trop, c'est trop, ça suffit, vous n'allez pas nous déstabiliser. Donc, on les a tenus tête. On les a tenus tête, c'était vraiment rude le combat entre la CGT propriété et les grévistes. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils n'ont pas réussi à briser cette grève-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré appeler les maris des salariés chez eux à la maison pour leur dire, de dire à leurs femmes de ne pas faire cette lutte-là.
Incroyable.
Vous vous en rendez compte?
Incroyable. Le degré de sexisme, c'est délirant.
Oui. Et il y a d'autres femmes qui ont dit « Non, mon mari m'a dit de ne pas faire, ils ont appelé mon mari, donc moi, je ne peux pas faire la grève. Non, sinon, je n'ai pas envie qu'il me divorce. Non, 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 des trucs comme ça. » Et les maris qui mettaient même la pression à leurs femmes de ne plus venir sur le piquet des grèves. Vous voyez? Donc, nous, ils ont réussi quand même à faire monter des femmes. Nous sommes restés 24 personnes. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont tout fait encore pour reprendre encore 4 personnes. Donc, nous sommes restés 20 personnes. Nous sommes restés 20 personnes. Et ces 20 personnes...
Vous étiez 30 au départ. Hein.
32. Ouais. Au départ, on était 32. Donc, aujourd'hui, nous sommes restés 20 personnes. Et ils ont vu qu'avec ces 20 personnes, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont lâchés. Voilà.
Ce qui est important, c'est faut comprendre qu'il y a toute une organisation derrière. Par exemple, s'il n'y avait pas des caisses de solidarité, d'ailleurs, je vais mettre dans la description de l'épisode le lien pour faire un don à cette caisse de solidarité. Ça ne vous permettrait pas de continuer la grève pendant des mois et des mois. Là, ça vous a permis de rattraper une partie du salaire que vous perdiez en grève, c'est ça?
Oui. Bon, quand même, la caisse de solidarité, Tiziri, qu'on dit, elle a mis un peu en commun en ligne. Sur Internet, non, les gens ont commencé à donner pour la caisse de solidarité. Et quand il y avait les manifestations de la retraite, donc on partait aussi manifester et on profitait aussi pour faire la caisse de grève. Et il y avait aussi des soutiens de partout. Franchement, sans ce soutien-là, je pense qu'on n'allait même pas arriver jusqu'en 8 mois de grève. Parce que comme on allait faire pour vivre, pour tenir cette caisse de grève-là, qui nous a permis à tenir dans cette lutte-là.
Parce qu'il faut quand même rappeler, peut-être que tout le monde ne le sait pas, quand on fait grève, on a une partie de notre salaire qui est retenue.
Je pense qu'on nous a quand même expliqué. On nous a quand même expliqué. Nous, on savait quand même que quand tu fais la grève, franchement, moi, je ne savais pas, parce que comme on n'a pas fait une longue grève, on n'a jamais fait ça. Et Tiziri, quand on dit, et Claude Lévy, c'est quand même des professionnels. Ce n'est pas leur première grève qu'ils font. Ils nous avaient déjà averti pour dire... Le groupe Accor, ce n'est pas un petit groupe. Et vous, même votre grève peut aller jusqu'à un an. Il faut s'attendre à ça.
Voilà, ouais, il faut s'attendre à ça. Il fallait se préparer psychologiquement à un combat de
l'ALN. Voilà, ils nous avaient vraiment préparé à ça. Et bon, si on fait le point commun et les gens commencent à avoir un peu de soutien, on pourra tenir, mais pas avec le salaire complet. Mais en fait, on n'a pas... Quand on a commencé la grève... tu te dis que peut-être qu'on allait avoir quelque chose pour pouvoir tenir. Vous voyez, on n'a pas imaginé ça tout de suite. Parce qu'on savait qu'on allait perdre le salaire, mais on ne savait pas qu'on allait avoir beaucoup de soutien pour pouvoir tenir comme ça. Tout de suite, on n'a pas pensé au salaire pour dire, mais si je fais la grève, comment je vais faire? Non. Donc, c'est quand la CGT propriétaire est venue, comment vous allez faire, on ne va pas vous payer, comment vous allez payer vos maisons, et la grève, ça va durer, vous allez rester là jusqu'en tout le froid, vous allez mourir sur le froid, et personne ne va vous venir en aide. Et c'est là qu'on a commencé à dire, mais comment on va faire pour le salaire? Donc, le syndicat a dit, ne vous inquiétez pas, on continue la lutte. Voilà. On continue la lutte. Et après, maintenant, voilà, ça nous a permis de continuer. Mais après, maintenant, on voit des soutiens. Il y a une organisme qui est venue nous donner 15 000 euros. Il y a l'association CLAC qui a organisé un truc pour nous, qui nous a donné 6 000 euros. Mais j'ai dit, waouh! Donc, ça, franchement, ça nous a encore donné le courage de tenir tête au groupe Accor.
Ouais, vous recevez beaucoup de soutien. Après, ouais, je trouve ça aussi extraordinaire ce que ça représente en termes politiques, parce que votre piquet de grève, ça veut dire aussi faire du bruit, taper sur des casseroles, interpeller les clients de l'hôtel, faire de l'affichage sur les vitrines. Enfin, c'est vraiment une action d'activisme politique. Je voulais savoir ce que ça vous avait apporté, vous qui êtes si souvent invisible. Vous êtes, voilà, les personnes qui nettoient, que ce soit dans les hôtels ou que ce soit dans n'importe quel espace public, en général, on les salue à peine. C'est vraiment une espèce de sentiment d'invisibilité. Qu'est-ce que ça vous a permis de vous rendre si visible, si audible? Ça a changé quoi en vous?
Mais ce que ça a changé en nous, déjà, quand on a commencé, parce qu'on n'avait pas, on ne savait pas qu'il devait avoir même autant de médias, autant de monde. Donc, on a commencé déjà avec le bruit de tambour. Pour même dire, c'est-à-dire pour même dire à la population de Clichy que nous sommes là, on travaille avec autant de souffrance dans cet hôtel-là, pour que les gens nous regardent un peu, mais c'était avec des bruits de tambour qui faisaient que les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe, d'où vient le bruit? Donc ça faisait que le quartier, c'est-à-dire aux alentours, venait pour voir, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout ce bruit, tout ça. Donc on était obligés, comme on avait des tracts, on était obligé de leur donner des tracts et de leur expliquer. Donc, c'est avec, quand même avec le bruit de tambour, tout ça là, qu'ils ont compris. Et après, quand les médias sont arrivés, moi, franchement, j'étais beaucoup heureuse. Ça m'a émue. Et je me suis dit, enfin, je pense que notre misère va prendre fin. C'est ce que je me suis dit. Parce que quand même, les médias qui en parlent, les journaux qui en parlent, c'est-à-dire le travail qui est beaucoup invisible, aujourd'hui, ça fait que tout le monde s'intéresse à ce métier. Or, que c'est un boulot que quand les gens ils viennent, même les clients, on ne les voit presque pas. Parce que nous, on arrive matin, ils sont sortis, ils sont allés, quand on parle le soir, ils rentrent. Donc, il y a des clients même qu'on ne voit même pas du tout. Vous voyez? Donc, franchement, moi, ça m'a beaucoup fait plaisir. Et quand même, on nous invite, les étudiants nous invitent dans les universités, je me dis que, waouh, parce que ces jeunes aujourd'hui, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est que le métier de femmes de chambre et quel rôle jouent ces femmes-là dans ces hôtels. Souvent, les jeunes n'y pas dormi. Mais pourquoi la grève? Pourquoi autant de souffrance envers ces femmes? Donc, franchement, ça m'a beaucoup fait plaisir.
Et puis vous-même, parmi tout le collectif, donc aujourd'hui, vous êtes 20 personnes, vous êtes souvent la porte-parole, c'est souvent vous qui êtes allé vers les journalistes. Comment vous l'expliquez? Pourquoi c'est vous qui avez été un peu désigné ou qui s'est naturellement désigné pour parler à la presse?
Mais bon, vous savez, parmi nous, il y a des femmes qui ne savent pas lire, écrire, et qui n'ont pas tous un grand niveau, comme on peut dire, la première, la seconde, non. Donc, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, comme on a été colonisés par la France, même si tu ne vas pas à l'école, mais tu t'exprimes mieux. Donc, quand les journalistes sont arrivés, les femmes refusaient d'aller vers ces gens-là pour aller, ces journalistes pour aller parler. Donc, quand les journalistes arrivent, ou bien des gens arrivent vers nous pour nous demander, mais la lutte, c'est quoi le but? Il n'y a personne pour parler. Donc, il n'y avait que moi, Sylvie et Traoré Aboubakar. Donc, souvent, nous, on disait aux femmes, non, ce n'est pas toujours nous, il faut aussi aller parler. Parce que ce n'est pas les syndicats, quand même, qui vont venir expliquer aux journalistes ce qu'on vit. Eux, ils savent ce qu'on vit, mais voilà, c'est nous qui vivons la chose. Et nous, on leur explique. Ils ne sont pas dans les hôtels avec nous. C'est nous qui savons ce qu'on vit pendant des années. Donc, arrivé un moment, quand les journalistes viennent vers nous, et ils envoient leur micro, on ne peut pas se mettre dans un coin pour les regarder comme ça. Et non, il n'y a personne pour leur parler. Non, il faut aller expliquer ce qu'on vit. Il faut aller dénoncer ce que la sous-traitance nous fait au sein de cet hôtel-là pour que le groupe Accor puisse comprendre. Ils savent ce qu'on vit parce qu'on leur explique. Ils savent la situation, mais ils font exprès. Donc, si c'est à dénoncer encore, à répéter pour qu'ils comprennent envers les médias, mais pourquoi pas. Donc, c'est comme ça, moi, Sylvie Traoré Aboubakar, mais on s'est mis au devant. Comme les autres, ils ne veulent pas parler. Ils se disent, non, je ne sais pas parler, non. Donc, même quand il y a les médias qui arrivent, ils disent, oui, il y a Rachel qui est là-bas. Non, Rachel n'est pas là, il y a Traoré qui est là-bas. Donc, on a dit, bon, si c'est dans ce cas, Traoré, si tu n'es pas là, c'est moi. Si je ne suis pas là, c'est Sylvie. Donc, c'est comme ça, c'est pas...
Ouais, c'est vrai que rien ne vaut un récit à la première personne. Enfin, c'est quand on vous entend décrire la réalité de votre métier qu'on comprend à quel point c'est difficile. Est-ce qu'il y a une dimension féministe dans votre combat?
Dimension féministe, moi je dis oui. Bon, ça dépend parce que vous savez, comme je peux dire, les Africains, nous, l'éducation qu'ils ont reçue, c'est tu dois te soumettre à ton mari, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mais moi, comme je disais à une journaliste que j'ai, le père de mes enfants me frappait, tout ça là. Donc, truc féministe, oui. Moi, je dis oui parce que le travail qu'on fait là, c'est nous les femmes qui le faisons. C'est nous les femmes de chambre. On dit les femmes de chambre. Vous n'allez pas attendre nulle part, on va dire homme ou bien ceci. Peut-être qu'il y a certains hommes qui travaillent, mais la majorité, c'est les femmes. C'est les femmes qui font ce métier-là. Donc, ces femmes-là doivent être respectées. Ces femmes de chambre, la sous-traitance ne doit pas profiter, abuser de ces femmes-là. Voilà, parce que c'est ce que je disais aux gens. Quand même, on est dans un pays des droits où la femme doit être protégée. Ce n'est pas parce qu'on est des femmes noires qu'il faut négliger ce côté-là, non. La loi, les droits, c'est pour tout le monde qui est sur le territoire français. Donc, oui, notre lutte, c'est un peu genre féministe, oui.
Et puis, par ailleurs, l'une des grévistes a porté plainte il y a 2 ans pour viol contre le directeur de l'hôtel. Il n'y a pas eu encore de procès. Hein. J'ai entendu certaines grévistes parler de droit de cuissage. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'emploi de ce terme ?
Oui, je suis d'accord avec.
Vous avez entendu parler de collègues qui ont pu subir des agressions sexuelles sans pouvoir en parler ?
Non, moi, par exemple, c'est ce que je disais. Moi, par exemple, vous savez, à l'hôtel, viol, c'est, on a entendu, depuis moi, je travaille, le viol, c'était ma collègue qui a été violée en 2017. Donc, je sais qu'il y a des filles, il y a des clients, souvent, quand tu tapes la chambre, qu'ils voient que tu les amènes, ils ouvrent la porte nue, tout nu, ils te montrent les fesses. Mais au sein de ce métier-là, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que, je ne sais pas si, quand on est allé au cabinet de Mme Chapin, je disais à son directeur de cabinet, si on peut même mettre, je ne sais pas, faire un groupe de personnes, je ne sais pas, mettre quelque chose en place pour suivre tous celles qui travaillent dans l'hôtellerie. Pour suivre, parce que il y a des clients qui peuvent même toucher tes seins. Il y a des clients qui touchent tes seins. Quand tu ouvres la porte, ils sont nus. Souvent, ils te disent même pas que non, de ne pas rentrer. Et quand tu ouvres la porte, même souvent, il est en train de faire l'amour avec sa femme. Tout ça là pour... Voilà, pour te faire... Il y a des choses qui se passent dans l'hôtel. Il y a plein de choses qui se passent au sein de l'hôtellerie. Vous voyez, et on vit ce genre de choses-là. C'est difficile pour nous. C'est beaucoup difficile pour nous.
Et puis quand on y pense, ce système, il est aussi conçu comme un piège. Enfin, vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de vos collègues qui ne parlent pas bien le français, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas forcément lire, qui ont des enfants aussi en bas âge, ce qui les rend vachement plus vulnérables sur le plan économique. Est-ce que vous avez l'impression que ce système, il choisit volontairement les personnes les plus vulnérables de la société ? Est-ce qu'il y a une sorte de piège qui se met en place ?
Mais soit des pièges, je peux pas. C'est quand tu es dedans que tu vas dire que c'est un truc de sort de piège. Parce que quand tu n'es pas dedans, tu peux pas savoir. Supposons que tu prends ce métier-là, tu n'as pas d'autre métier, tu dois renouveler ta carte de séjour. Et la préfecture te demande un boulot, il te ramène tes fiches de paye. Donc là, je peux dire que c'est un piège à ce niveau-là. Parce que il t'oblige à aller faire le travail que tu n'as pas envie de faire pour pouvoir renouveler ta pièce d'identité. Puisque tu ne trouves pas de boulot ailleurs, si ce n'est pas ce métier, comme tu ne sais pas aller écrire, tu es obligé de faire le ménage. Tu es obligé de le faire. Parce que tu vas aller faire quel autre boulot pour quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Donc, d'où vient le piège là? Parce que tu ne sais pas lire et écrire et on te demande de ramener tes filles, de ramener une attestation de travail. Donc, tu es obligé de travailler là. Donc, franchement, c'est difficile. Je sais pas.
Et on peut parler, selon vous, d'une dimension raciste dans l'exploitation que vous décrivez là ?
Moi, je peux dire exploitation, bon, raciste, parce que, bon, s'ils étaient racistes, est-ce que... Bon, de toutes les façons, si ce n'est pas les femmes noires, et personne ne peut faire ce métier-là, parce que je peux dire qu'il y a des femmes blanches qui viennent là, même une journée, ils ne peuvent pas continuer à faire ce métier, avec la sous-traitance. Hein. Parce que la sous-traitance, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Parce que tu ne peux pas accepter de venir travailler avec la sous-traitance et puis accepter ce qu'ils te font et tu vas rester. Tu ne peux pas. Donc, ils profitent de l'occasion, ils profitent de ça. Et moi, je ne peux pas savoir, je ne peux pas dire peut-être que c'est du racisme, je ne sais pas. Mais comme on est des Africains, ils profitent de cette situation.
Mmh. Ben, je pense que c'est quand même l'occasion de rappeler que le 6 février dernier, le groupe Accor était épinglé par un testing commandé par le gouvernement français avec 6 autres entreprises pour présomption de discrimination à l'embauche. La campagne consistait à évaluer la réponse des employeurs à des candidatures en fonction du nom à consonance maghrébine ou à consonance européenne et du lieu d'habitation. Et donc Accor a été épinglé pour un comportement raciste. Donc voilà, je trouve que c'était pas mal de le rappeler. Quel regard vous portez sur les manifestations qui ont lieu en ce moment contre les violences policières, contre le racisme institutionnel ?
Mais contre les violences policières, ouais, moi franchement, je suis... J'ai peur parce que les violences policières, ça existe, faut pas le nier. Comme les gens disent, oui, bon, c'est pas tous les policiers, c'est vrai, mais c'est pas tous les policiers qui sont comme ça. Mais les policiers qui ne sont pas comme ça ne dénoncent pas ceux qui le font. Moi, aujourd'hui, mon fils, il prend sa voiture, il part, j'ai vraiment peur. Souvent, je l'appelle parce qu'il peut avoir un contrôle. Et demain, on va m'appeler tout de suite pour dire, ton fils, il est à l'hôpital, je vais, on me dit, ton fils n'est plus. Donc, les violences policières, c'est des choses qui existent vraiment. Ça existe pour nous, surtout nous, les Noirs. Faut pas se voiler la face. C'est vrai, faut pas se voiler la face. C'est des choses qui existent. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui est déjà meloté, mais pourquoi le mettre par terre? Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de... Ses deux bras sont déjà derrière. Quelle force il a pour courir? Quelle force il a pour... Je sais pas. Mais... Je ne sais pas, ça me fait tellement de la peine et que je ne sais pas comment dire ça. Moi, je suis dépassée en fait de ça. Parce que comment on est dans un pays de droits de l'homme et je me dis que quand l'esclavage est fini, quand ils ont dit qu'ils ont aboli l'esclavage, je pense qu'ils ont créé la police pour continuer avec ce système-là. Voilà, c'est ce que moi je vois. Je pense qu'ils ont créé la police pour continuer un peu ce système-là. Parce que, voilà, parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un et la personne va mourir dans un truc de gendarmerie. C'est impossible puisqu'ils sont là pour protéger la population. Et moi, souvent, dans les assemblées, j'attends quand les députés, les ministres disent les policiers sont là pour protéger les Français. Mais et nous qui ne sommes pas Français, qui nous protègent, nous? Qu'est-ce qu'ils font pour nous qui ne sommes pas Français? Parce que ça, personne ne se pose la question. Je regarde les débats, je vois les ministres qui disent dans les assemblées nationales que oui, les policiers sont là pour protéger les Français. Mais ce n'est pas tout le monde qui est Français ici. Ce n'est pas tout le monde qui est Français. Bon, ceux qui ne sont pas Français, qui nous protègent, nous? Comment on fait? Si, il y a une bavure policière, qui nous protège? Qui vient à notre secours? Qui vient à notre aide? Comment on fait? Chez nous, en Afrique, là-bas, c'est, on ne peut pas, il y a la dictature, pas possible. On vient aussi en France où il y a le pays des droits de l'homme. C'est les bavures policières, c'est les meurtres, c'est le racisme, c'est tout. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je me pose la question. C'est pour moi, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est méchant d'exister sur la terre ou bien j'ai des trucs que je ne sais pas qui va me répondre, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que la peau noire, qu'est-ce qu'on a fait de méchant? Qu'est-ce qu'on a fait?
Vous allez continuer la grève, là? Vous allez reprendre?
Oui, encore maintenant, il n'y a plus de confinement, mais là, les hôtels sont fermés. Donc, il y a quelques hôtels qui sont ouverts, mais chez nous, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, et comme pour l'instant, je pense, je ne sais pas s'ils ont ouvert les aéroports, il n'y a pas encore assez de touristes. Donc,
quand l'hôtel... Ça n'a pas encore repris.
Voilà, c'est ça. Donc, quand l'hôtel va s'ouvrir, quand les touristes vont commencer à venir, que les syndicats nous diront que bon, c'est bon, l'hôtel est ouvert, mais on va repartir sur le piquet de grève qu'on fait du lundi à vendredi de 9h à 16h. Tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Donc, on va reprendre notre lutte parce que on n'a pas encore quelque chose de concret pour pouvoir arrêter cette lutte-là comme ça. Donc, on est prêt à reprendre la lutte quand tout va rentrer en ordre.
Ça fera un an le mois prochain. C'est un jour aussi important. C'est un jour important pour vous aujourd'hui. On est le 15 juin et je vous remercie d'avoir accepté de me parler alors que vous, aujourd'hui, c'est la plaidoirie au Prud'homme. Elle devait avoir lieu en mars et puis elle a été repoussée à cause du confinement. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès au Prud'homme ? Vous espérez que la justice va entendre votre voix et va vous donner réparation ?
Mais je pense que la justice va attendre déjà notre voix parce que la justice, nous ne sommes pas les premières personnes quand même à l'eau au Prud'homme étant en grève pour cette situation-là. Pour le travail dissimulé, les heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées, pour les conditions de travail envers leurs salariés. Et je pense que la justice fera son travail. Il faut que la justice fasse son travail parce que déjà, la justice sait déjà le dossier du groupe Accor, ils ont ça déjà dans leurs mains. Et c'est pas, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'ils ont été déjà condamnés pour ça. Donc voilà, ils savent c'est quel genre d'organisme, de société, la sous-traitance. C'est pas, nous ne sommes pas les premières personnes à faire ce mouvement-là au Prud'homme. Donc, il faudrait que les juges fassent franchement une justice vraie. Ne pas regarder le groupe Accor pour dire c'est un grand groupe et ne pas donner ce que les plus démunis demandent. Donc, c'est aux juges de mettre les pendules à l'heure pour que chacun puisse connaître sa place.
J'espère de tout cœur que vous serez entendue, Rachel. Rachel Keke, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Est-ce qu'il y a un espace où on vous laisse en paix, où on vous laisse rêver ?
Non, parce que même avec les enfants, même dans ma chambre, quand je regarde la télévision, toujours dans ma chambre, dans mon lit, je suis obligée de crier, sortir. Bon, le jour qu'ils grandiront, ils partiront chez eux, j'aurai une chambre tranquille. Mais là, avec les enfants, là, non.
Ouais. Si je vous dis La Poudre, c'est le nom de l'émission, ça vous fait penser à quoi ?
Poudre de piment. La poudre de piment. Ah, c'est le nom de l'émission, La Poudre.
C'est la première fois que j'ai cette réponse culinaire. Merci beaucoup, Rachel. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Rachel. Je vous souhaite plein de courage pour le procès au Prud'homme et pour votre lutte. J'espère vraiment que vous allez être entendue.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis de suivre notre combat. Franchement, ça nous fait plaisir. Et je dirais à mes collègues que j'ai parlé de notre lutte avec vous. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci de m'écouter. Merci de prendre aussi tout votre temps à m'écouter. Et ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Merci à Rachel Keke d'être venue faire parler La Poudre avec moi. Et merci à Clara Maté pour le travail de recherche et de documentation.
La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Martin pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.